La voie ferrée iranienne sera connectée à l'Asie centrale, au Caucase et à la Méditerranée. Avec la finalisation des projets de l'expansion de la voie ferrée iranienne, au sud-est du pays, le port de Chabahar sera connecté à la mer Caspienne. Au Turkménistan et à Astara, ville limitrophe située à la frontière irano-azerbaïdjanaise. Ainsi, le réseau national iranien sera également connecté à la Méditerranée, a déclaré le président Rouhani. Lors de la cérémonie d'inauguration de 62 projets nationaux dans les zones franches industrielles et économiques spéciales, le président de la République islamique d'Iran a ce mardi annoncé la nouvelle. L'une des priorités du gouvernement dans les zones franches d'Arvind et de Shalamcheh, situées dans le sud-ouest du pays, est de réaliser le chemin de fer Iran-Irak entre Khorramshahr et Basra. Cette voie ferrée jouit d'une grande importance car il relie le réseau ferroviaire national au sud-est d'Iran au réseau de la voie ferrée irakienne et syrienne. C'est-à-dire que nous relions par ce projet le golfe Persique à la Méditerranée. Le chef du gouvernement iranien évoquant le raccordement du chemin de fer de Chabahar au chemin de fer national du pays au niveau de la ville de Zahedan a déclaré « Tous nos efforts étaient d'inaugurer ce projet avant la fin du mandat du gouvernement actuel ». Les lignes Zahedan, Khash et Chabahar, Iranshahr sont déjà en cours d'achèvement et après la finalisation de la ligne, Iranshahr, Khash, le grand projet de la voie ferrée, Chabahar, Zahedan sera inauguré dans les prochains mois. Chabahar sera ainsi connecté au chemin de fer national, c'est-à-dire que ce pont océanique d'Iran sera branché à la mer Caspienne. Au Turkménistan et à Astara, ville limitrophe située à l'extrême nord-ouest du pays. Le président élu d'Iran, Ebrahim Raisi, et le président syrien Bachar al-Assad ont souligné la nécessité de promouvoir les relations entre les deux alliés dans divers domaines. Lors d'une conversation téléphonique, Assad a félicité Raisi pour sa victoire à l'élection présidentielle iranienne du 18 juin. Le dirigeant syrien a également souhaité à l'élu du peuple du succès dans ses efforts pour diriger l'Iran au cours de son mandat de chef de l'exécutif vers de nouveaux progrès et de triompher dans ses efforts pour aider le pays à poursuivre sa marche en avant. Les deux responsables ont également affirmé leur vif intérêt et leur détermination à continuer de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et à maintenir la coordination et la consultation des deux parties sur les questions d'intérêt mutuel. L'Iran et la Syrie entretiennent des relations étroites et d'innombrables points communs. La République islamique a fait preuve d'un engagement indéfectible à aider la Syrie à préserver son indépendance et son intégrité territoriale. Cet engagement a vu Téhéran se précipiter à l'aide de Damas en 2011, lorsque le pays arabe a commencé à être submergé par le militantisme et le terrorisme soutenu par l'étranger. La Turquie a commencé à développer un missile anti-radar capable de tromper le radar S-400 russe. Après avoir adopté les systèmes de missiles anti-aérien russe S-400 Triomphe, la Turquie a commencé à développer un nouveau missile anti-radar de croisière qui, compte tenu des systèmes de défense aérienne russe étudiés, peut être utilisé pour combattre les systèmes S-400. À l'heure actuelle, on sait que le missile anti-radar Akbaba sera l'un des types d'armes développées en Turquie pour le chasseur TFX de 5e génération. Dans le même temps, compte tenu des informations actuelles, le nouveau missile peut être exporté vers d'autres pays de l'OTAN. D'autant plus que l'Alliance de l'Atlantique Nord s'intéresse aux armes capables de combattre les armes russes. D'autre part, les experts attirent l'attention sur le fait que si l'armée turque a pris possession d'informations précieuses sur les systèmes de défense aérienne russe S-400 Triomphe, cela ne signifie pas du tout que les missiles en cours de développement pourront combattre les versions des systèmes de défense aérienne situés sur l'armement de la Russie. Compte tenu du fait que les zones où sont déployés des Triomphes sont couvertes par des systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, cela permet d'abattre un missile anti-radar à plusieurs dizaines de kilomètres de la cible. En plus, la version du S-400 destinée à l'export serait très différente de celle utilisée par la DCA russe. Des bruits de bottes se font entendre dans l'Himalaya. Un risque de dérapage entre la Chine et l'Inde n'a jamais été aussi proche, comme le raconte Spoutnik, citant l'AFP. Voici le récit des faits comme raconté par le média russe. La Chine et l'Inde auraient renforcé de façon significative leur contingent dans l'Himalaya, tout au long de leurs frontières communes. Pour le général Alain Lambel, ancien attaché militaire à New Delhi, ce déploiement militaire correspond à la stratégie défensive indienne qui se confronte à l'expansionnisme chinois. Des centaines de milliers d'hommes sont massés de part et d'autre des 3500 km de la frontière commune entre l'Inde et la Chine. Tour à tour, les médias américains Bloomberg et The Wall Street Journal ont fait état ces derniers jours d'une augmentation impressionnante du nombre de troupes indiennes et chinoises dans l'Himalaya. Le chiffre de 200 000 soldats indiens postés dans les trois secteurs les plus importants, soit une augmentation de 40% en un an, et même avancée par l'agence économique. Selon les estimations d'Alain Lambel, général de S, spécialiste de l'Asie du Sud, au CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement, 50 000 à 60 000 d'entre eux seraient déployés dans le Ladakh oriental, théâtre de plusieurs escarmouches meurtrières en 2020. Face à eux, dans la même région, le quotidien new-yorkais révèle la présence de moins 50 000 militaires de l'armée populaire de libération APL chinoise contre 15 000 il y a un an. Alors que les négociations bilatérales n'ont pas réellement avancé, les deux puissances, en particulier New Delhi, sont obligées de maintenir le contact en augmentant leurs effectifs de façon à ne pas céder le moindre pouce de terrain qui est à l'offensive dans le Ladakh. Côté indien, plusieurs sources bien informées de Bloomberg expliquent ces déploiements de troupes sur la frontière de facto appelée ligne de contrôle effectif, Line of Actual Control, par l'adoption d'une nouvelle posture offensive, ce qui modifierait radicalement la stratégie traditionnelle de New Delhi, qui ambitionnerait désormais, à en croire ses sources, de reconquérir certains territoires passés sous contrôle chinois. En 2020, l'armée indienne aurait perdu sur le toit du monde 300 000 km² de terrain face à la poussée chinoise. Le général Lambel reste toutefois sceptique. Les Indiens n'ont aucun intérêt à déclencher les hostilités. Ce que veulent les Indiens, c'est maintenir leur position Ladakh de façon à ce que les Chinois ne progressent pas davantage en direction des positions tenues à l'ouest du glacier de Siachen, tenu par les Pakistanais. Selon le général, Pékin poursuivrait en revanche deux objectifs, couper l'Inde du Xinjiang. Cette région désertique et montagneuse du nord-ouest de la Chine et l'élargissement de la frontière avec son allié pakistanais. En février, l'Inde et la Chine avaient opéré un désengagement partiel conjoint de leurs forces autour du lac Pangong Tso, à plus de 4000 mètres d'altitude. Après plusieurs mois d'intenses négociations, mais ça n'aboutit à rien, considère l'ancien attaché militaire à New Delhi et à Islamabad, qui évoque un statu quo qui va perdurer. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a estimé fin juin que la situation actuelle à la frontière est généralement stable, appelant à ce que les paroles, les actes et les déploiements militaires contribuent à apaiser les tensions et accroître la confiance mutuelle. L'Inde cherche à mettre en place une dissuasion crédible. Cité par Bloomberg, D.S. Hoda, un ancien haut gradé indien, s'inquiète pourtant que les bruits de bottes se soient récemment multipliés dans l'Himalaya. Un petit incident local pourrait dégénérer telle une spirale hors de contrôle avec des conséquences imprévisibles. Il y a toujours évidemment un risque de dérapage, admet Alain Lambel. Il peut y avoir des conflits locaux sans que ce ne soit voulu en haut lieu. Mais ça n'aboutira pas à une guerre généralisée, je n'y crois absolument pas. Les Chinois comme les Indiens ne déclencheront pas de guerre généralisée. Sachant pertinemment les conséquences redoutables d'un tel conflit, les deux parties ont régulièrement calmé le jeu lors de séances de négociation. Ainsi, les troupes indiennes continueront à faire face aux troupes chinoises, lesquelles devraient attendre des conditions favorables, diplomatiques, économiques et une détérioration côté indien, afin éventuellement de gagner une petite parcelle de terrain au Ladakh, justifiant ainsi sa position sur la posture indienne qui reste une stratégie défensive consistant à ne pas céder un 20 pouces de terrain. L'avantage est du côté chinois, cela car les circonstances jouent contre New Delhi, notamment la disproportion des forces en présence de ces deux mastodontes qui est largement favorable à Pékin. Selon le chercheur Gilles Bouquera, qui vient de publier à ce sujet une note pour la Fondation pour la recherche stratégique, l'Inde n'est pas dans un rapport de force qui lui permet de reconquérir le terrain perdu. Les carences indiennes sont nombreuses, du désordre du haut commandement jusqu'au déficit d'effectifs, de matériel et de logistique. L'avantage est du côté chinois, notamment sur le plan technologique, confirme Lambel, qui fait aussi référence aux capacités cyber chinoises. Les dépenses militaires de Pékin ont atteint 252 milliards de dollars en 2020 contre 72,9 milliards de dollars pour l'Inde. Ainsi, New Delhi souhaiterait-il avant tout mettre en place une dissuasion crédible visant à décourager toute intrusion chinoise, explique la note. Ce déploiement supplémentaire de troupes indiennes, accompagné de la construction d'infrastructures et de réseaux routiers, répondrait ainsi à ce dernier objectif. Il est nécessaire de construire des infrastructures plus permanentes chez les Indiens comme les Chinois qui sont décidés à maintenir leur position. Donc, il faut évidemment améliorer leurs conditions de vie de ces soldats qui vont encore endurer un hiver extrêmement difficile dans quelques mois, précise l'ancien attaché militaire. La France espionne la Russie. En décembre dernier, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins SNLE Vladimir Monomakh a tiré une salve de 4 missiles balistiques à capacité nucléaire Boulava depuis la mer d'Ostok, ce qui au passage a mis en alerte la base américaine de Rammstein en Allemagne. Son système de notification d'alerte de lancement de missiles s'étant déclenché. Quoi qu'il en soit, la mer d'Ostok présente un intérêt en matière de renseignements, comme en témoigne l'envoi régulier d'avions de reconnaissance RC-135 de l'US Air Force, ces appareils étant spécialisés dans le recueil de renseignements d'origine électromagnétique ROM. Le 23 juin dernier, l'un d'eux y a été intercepté par un Su-30SM russe. Mais visiblement, cette région intéresse aussi la direction du renseignement militaire des RM françaises. En effet, le 5 juillet, le ministère russe de la Défense a fait savoir que le bâtiment d'expérimentation du Puy de l'Homme faisait l'objet d'une surveillance après avoir été repéré dans le détroit de Tatari. Les forces et moyens du district militaire de l'Est exercent un contrôle sur le navire de reconnaissance navale français du Puy de l'Homme opérant à partir du 5 juillet 2021 dans les eaux de la mer du Japon et du détroit de Tatari, a en effet indiqué le centre russe de gestion de la défense nationale. Pour rappel, le bâtiment d'expérimentation du Puy de l'Homme, autrefois appelé bâtiment d'expérimentation et de mesure, est un navire de 3600 tonnes pour une longueur de 101,75 mètres et une largeur de 15,85 mètres. Mis en œuvre par la Marine nationale au profit de la DRM, il accueille à son bord 80 spécialistes et analystes chargés d'exploiter les renseignements obtenus par ces puissants moyens d'interception et d'écoute fournis par Thales. Il est faiblement armé, ne disposant que de deux mitrailleuses de 12,7 mm. Ces derniers temps, le Puy de l'Homme avait surtout été signalé en mer Noire. En outre, depuis l'expédition de la Pérouse et celle du croiseur La Clochetrie, la présence de navires français dans le détroit de Tatari est extrêmement rare. Selon les données AIS, système d'identification automatique des navires et sous réserve qu'elles soient correctes, le Puy de l'Homme est arrivé à Hakodate. Hokkaido au Japon le 30 juin. Il a appareillé pour une destination non précisée le 4 juillet. En matière de renseignement, nous travaillons avec persévérance à l'appréciation autonome de la France. Nous envoyons chacun notre navire, le Puy de l'Homme, en Inde-Pacifique pour faire notre mission et pouvoir échanger du renseignement avec nos alliés, a récemment expliqué l'amiral Pierre Vendier, le chef d'état-major de la Marine nationale française au quotidien Le Monde.